Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Voici le sommaire. Félix-Antoine Tshisekedi rencontre Paul Kagame ce mercredi à Luanda en Angola. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23 qui a repris les combats dans l'est de la RDC, ce que nie le Rwanda. Le président angolais va ainsi jouer le médiateur entre les deux pays. Deuxième jour d'accalmie ce mercredi dans le retour au Nord Kivu. L'armée maintient toujours ses positions, notamment à Rumangabo, Rubare, tandis que les populations vaquent librement à leurs occupations en retour au centre Kiwanja, rapporte des sources sur place. Et puis, l'invité de ce midi, Maureen Wellwood, directrice des opérations de la force de la MONUSCO en RDC. Elle nous parle de la présence des casques bleus sur le théâtre des affrontements dans le Nord Kivu, le soutien de la force onusienne au FARDC, ainsi que la protection des civils pendant les conflits. Madame, Messieurs, bonjour. Sommet de Luanda sur la tension diplomatique entre la RDC et le Rwanda en rapport avec le soutien avéré du Rwanda au M23. Le président Félix-Antoine Tshisekedi séjourne en Angola depuis hier et Paul Kagame du Rwanda y est attendu dans les heures qui suivent. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC sera au centre de ce mini-sommet tripartite convoqué ce mercredi à Luanda, initié par le président angolais. Cette réunion mettra en face le président de la RDC et son homologue du Rwanda, des détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Depuis la résurgence du M23, la RDC ne cesse d'accuser le Rwanda d'agression. Le gouvernement congolais qualifie le M23 de groupe terroriste instrumentalisé et armé pour couvrir cette agression. Le Rwanda, de son côté, nie toute implication dans l'activisme du M23 et accuse la RDC de soutenir les FDLR pour déstabiliser son pays. En froid depuis le regain de violence à l'est du pays, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne se sont plus retrouvés en bilatéral. Et c'est pour participer à cette rencontre voulu des vérités que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est arrivé hier mardi en fin de la journée à Luanda, en Angola. Son homologue rwandais Paul Kagame est déjà annoncé pour les heures qui suivent, contrairement au premier mini-sommet où il avait participé en visioconférence. Ce sommet se déroulera donc ce même mercredi entre les deux pays et faire baisser la tension au sein de la sous-région.
Entre-temps, sur le terrain, dans le Rutshuru au Nord Kivu, deuxième jour d'accalmie ce mercredi dans la zone des affrontements qui oppose l'armée loyaliste aux terroristes M23. C'est notamment vers Bikenke, Rwanguba et Ntabungenga. Les derniers affrontements datent de lundi dernier à Bikenke dans le groupement Kisigari sans produire grand changement. L'armée maintient toujours ses positions, notamment à Rumangabo, Rubare, tandis que les populations vaquent librement à leurs occupations à Rutshuru au centre et à Kiwanja. La circulation reste également normale sur l'axe Goma-Rutshuru. Nous n'avons pas réussi à joindre le porte-parole des opérations Sokola 2 pour plus de précisions. En Ituri, pendant ce temps, les leaders des communautés Lendu et Ema ont résolu de surmonter leurs différends pour la recherche de la paix dans cette province. Il s'agit notamment des conflits identitaires, fonciers et de limites administratives qui poussent certains membres à recourir aux violences. Ils l'ont dit au cours d'une rencontre des consultations sur les priorités de la paix, rencontre organisée par la coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri en collaboration avec le consortium Médiation. D'autres détails avec Isaac Remoyope.
Des avancées significatives ont été observées depuis la première rencontre entre les deux parties en avril dernier pour l'amélioration de la sécurité en Ituri. C'est notamment la signature des deux actes d'engagement par certains groupes armés pour la cessation des hostilités. Cependant, des défis restent énormes pour préserver les acquis de la paix en Ituri. Il s'agit entre autres des exactions commises par la milice Zaïre, les conflits des limites et des pouvoirs qui risquent de saper les efforts fournis par les deux communautés. Dieudonné Lossa, le coordonnateur de la société civile Force Vive de l'Ituri.
Il a été décidé à ce que ces problèmes puissent être pris en considération par l'État congolais. S'ils ne sont pas bien gérés, peut encore nous ramener, nous reculer dans ce que nous vivons hier.
Pour les deux communautés, ce qui constitue leur priorité, c'est le retour des milliers de déplacés dans leur village d'origine, la relance des activités agricoles, la reconstruction des infrastructures scolaires et sanitaires détruites pour permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école. Lonema Vajero et Jean-Marie Ndjaza, respectivement président des communautés Nte et Lori.
Nous sommes venus voir ce qui nous unit. Nous avons notre Ituri, notre patrimoine
commun que nous devons léguer demain à nos enfants.
Pour le bien de nos deux communautés, pour le bien de l'Ituri en général, nous devons fermer les yeux d'abord sur un certain nombre de problèmes qui existent et qui nous divisent.
Le vice-gouverneur a salué l'engagement des deux parties et réitéré le soutien total du gouvernement de la RDC pour la restauration d'une paix durable dans cette province. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Deuxième et dernier jour ce mercredi de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP au Nord Kivu. Aucun incident signalé jusqu'ici dans la province éducationnelle Nord Kivu 3. Elle comprend les territoires de Masisi et Walikale, situés à environ une centaine de kilomètres au nord-ouest de Goma. Les responsables de l'éducation redoutent cependant la déperdition des élèves dans certains centres d'examen, situation consécutive à l'insécurité persistante ainsi qu'au déplacement des populations dans certains coins de ces deux territoires. Le point de la situation avec Gabriel Ouaménia.
Dans la province éducationnelle du Nord Kivu 3 qui couvre deux territoires dont Masisi et Walikale, il n'y a aucun incident ni des perturbations qui ont été rapportées par les responsables de l'éducation et encore moins par les autres acteurs impliqués dans l'organisation de la dite session depuis son lancement officiel hier mardi. La situation est identique dans les zones encore sous occupation des groupes armés résiduels où les examens se sont bien déroulés, affirment les sources de l'éducation dans cette zone. L'inspecteur principal provincial de ce secteur d'éducation redoute cependant quelques cas de déperdition d'élèves suite au mouvement intempestif de la population dans ces deux territoires. Des données Ukumu Woloka.
Dans nos milieux, la déperdition est forte, mais jusque là, je n'ai pas encore reçu le rapport. En général, nous avons quand même des déperditions. D'habitude, hein, dans notre province, nous enregistrons quand même des déperditions pour des raisons, par exemple, que vous venez d'évoquer, l'insécurité, tout ça.
Rappelons que la province éducationnelle Nord Kivu 3 a aligné plus de 20 000 candidats pour cette session 2021-2022 et sont répartis dans 116 centres d'examen opérationnels. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
Du côté de Maïndombe, deux centres d'examen national de fin d'études primaires et NAFEP ont été délocalisés dans le territoire de Kwamout. Il s'agit des centres de Massiambe et de Idouma. Le député provincial David Wissaka, qui le rapporte, indique que c'est à la suite du manque de sécurité après les échauffourées vers fin juin dernier entre les exploitants forestiers et les chefs coutumiers de ce coin. Irène Mboma nous en dit plus.
Les deux centres de passation de l'ENAFEP qui sont délocalisés dans les territoires de Kwamout au Maïndombe sont entre autres les centres de Massiambe et celui de Idouma. Le centre de Massiambe, quant à lui, est installé à Ngweme, un village situé à plus de 25 km de Massiambe, et celui de Idouma fonctionne en Timba. Cette situation est consécutive aux troubles qui ont eu lieu il y a quelques jours, ayant occasionné l'incendie de plusieurs maisons et la fuite des populations dans la forêt. Le député provincial David Bisaka est l'élu du territoire de Kwamout.
Les centres de ENAFEP ont été délocalisés suite aux échauffourées qui avaient eu lieu entre les exploitants agricoles et les chefs coutumiers. Et les parents, les élèves se trouvaient déjà en forêt. Nous avons demandé à l'ESPOUL et à l'IPP si on pouvait délocaliser les centres de ENAFEP. Chose faite, ceux qui pensaient peut-être que ces enfants-là rateront l'examen, on a vraiment tout fait pour que ces élèves-là puissent rejoindre le lieu du centre.
David Bisaka plaide auprès des autorités compétentes afin de sécuriser cette contrée pour que les finalistes du secondaire ainsi que les candidats au Tenasos P qui sont encore en forêt puissent aussi bien passer leurs épreuves dans les tout prochains jours. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Direction le Sud Kivu. Un détenu de la prison de Calais est mort en détention. L'administrateur de ce territoire affirme que cet homme est décédé hier de choléra dans une prison qui n'a aucun dispositif médical. La prison centrale de Calais régorge à ce jour au moins 43 détenus qui ne bénéficient d'aucune prise en charge de l'État congolais. Seules d'éventuelles interventions de certaines bonnes volontés font vivre tous les pensionnaires. Pour l'instant, quelques dispositions sont prises localement pour épargner les autres prisonniers de Calais de la maladie de choléra, a dit l'administrateur de Calais. Santé toujours. Le Haut-Katanga a enregistré jusqu'à ce jour 6746 cas de COVID-19, dont 154 décès. La province a organisé une campagne de vaccination de masse qui a connu un grand engouement, a indiqué le ministre provincial de la Santé. Le Haut-Katanga connaît aussi la diminution des cas de COVID-19 dans les hôpitaux. Joseph Sambibou Landa l'a fait savoir au cours de la conférence de presse portant sur l'évaluation de cette campagne qui a eu lieu en mai dernier, d'ample détail avec Jean Gandou.
La campagne de vaccination de masse s'est déroulée pendant 2 semaines au cours du mois de mai dernier. Elle se faisait sur des sites fixes et les équipes pouvaient aussi se déplacer en allant vers les personnes cibles. C'est ainsi qu'environ 158 200 personnes étaient vaccinées à la première dose et 623 à la deuxième dose, ce qui, d'après le ministre provincial de la Santé, constitue 21% de la cible qui était de près de 757 000 personnes. Au regard de ces résultats, il apparaît que cette campagne a atteint plus de personnes que celles vaccinées lors de la campagne de routine qui, au cours d'une année, n'a touché que plus de 53 000 personnes. Mais le taux est encore faible, car pour toute la province, ce sont plus de 3 421 000 personnes qui sont attendues. Il y a encore les efforts à fournir, estime Joseph Sambibulanda, ministre provincial de la Santé, même si, à l'heure actuelle, il y a diminution des cas.
Comparé à l'année dernière, à la même période, nous pouvons dire qu'il y a une forte baisse. On s'attendait peut-être au même taux d'incidence que les années antérieures. Curieusement, prise pour la même période, l'infection a diminué sensiblement. À la même période de l'année passée, on notifiait 10 fois plus de cas que cette année.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Restons dans le Grand Katanga. Plus de 80 enfants à réunifier avec leurs familles, principalement dans les provinces du Katanga et du Tanganyika, séparés lors des conflits intercommunautaires et des groupes armés dans ces zones. Ces 3 dernières années, les familles vont devoir se remettre ensemble. La réunification est rendue possible par le Comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec ses différents partenaires. Patience Ngalula nous fait le point.
Pour ce mercredi 6 juillet, environ 50 enfants vont être réunifiés avec leur famille entre Poeto et Manono après plus de 3 ans de séparation. Cette réunification familiale intervient après le travail de terrain mené en amont par les volontaires de la Croix-Rouge de la RDC en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge. Le processus a consisté à l'identification des enfants non accompagnés, la recherche familiale et l'acceptation par les deux parties de se réunir à nouveau. Selon Florence Anselmo, chef de l'Agence centrale de recherche du Comité international de la Croix-Rouge, les conflits entre les comités Toa ainsi que les affrontements entre Bakata Katanga et les forces de l'ordre perpétrées dans les deux provinces restent la principale cause de cette séparation familiale. Signalons que la même activité va se poursuivre dans le territoire de Kabalo, Kongolo et dans la ville de Lubumbashi dès ce jeudi 7 juillet où une trentaine d'enfants pourra renouer avec leur famille. Sachez aussi que le Comité international de la Croix-Rouge a réunifié environ 1000 enfants l'année dernière à travers les pays dans le cadre de ses activités de routine et le processus de recherche familiale se poursuit en faveur de plus ou moins 600 autres enfants non accompagnés en République démocratique du Congo. Poeto, Patience Ngalula, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Notez tout d'abord le décès du Nigérian Mohamed Barkindo, secrétaire général sortant de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. Il est mort mardi soir à l'âge de 63 ans, a annoncé ce mercredi la INNPC, où il avait occupé plusieurs postes. La nouvelle est tombée quelques heures après une rencontre à Abuja avec le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui avait salué le brillant travail de Mohamed Barkindo à l'OPEP, où il a réussi à naviguer dans des eaux agitées, a dit le président nigérien. Au Soudan, le principal bloc civil rejette la proposition du chef du coup d'État et appelle à des nouvelles manifestations contre le pouvoir militaire, alors que le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé lundi que l'armée s'est retirée des pourparlers nationaux pour faire place à un gouvernement civil. Les forces pour la liberté et le changement dénoncent un retrait tactique destiné à maintenir l'influence de l'armée dans le pays. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson se prépare à un face-à-face musclé avec les députés britanniques aujourd'hui. C'est après la démission spectaculaire de plusieurs de ses ministres. Sa survie politique est en jeu. Les ministres de la Santé et des Finances ont annoncé à quelques minutes d'intervalle leur démission mardi soir, lassés des scandales à répétition qui secouent le gouvernement britannique depuis des mois.
L'invité.
Comme annoncé ce midi, nous recevons le colonel Maureen Wellwood, directrice des opérations de la force de la MONUSCO en RDC. Dans cet entretien, ce responsable militaire de la MONUSCO nous parle de la présence des casques bleus sur le théâtre des affrontements dans le Nord Kivu. Elle évoquera aussi le soutien que la force de la MONUSCO apporte aux FARDC ainsi que la protection des civils pendant les conflits. Elle s'entretient avec Sifa Maguru.
Colonel Maureen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des opérations de la force de la MONUSCO. Pouvez-vous éclairer la population sur ce qui se passe dans la zone des affrontements en territoire des Rutshuru?
Certainement, les FRDC sont mieux positionnés pour exprimer et partager qu'est-ce que eux ils font comme opération. Du côté de la force de la MONUSCO, ce qu'on fait, c'est qu'on occupe certaines parties du terrain pour appuyer la défense qui se fait par les FRDC. On appuie les FRDC également au niveau de en logistique, en échange de renseignements, en appui feu, appui d'aviation et aussi quelques équipements au niveau défensif. Donc, on est là premièrement pour faire une protection de la population par rapport aux affrontements qui se font et en même temps offrant l'appui aux FRDC pour rendre leur défense encore plus efficace justement pour la population civile.
C'est cette protection de la population qui n'est pas bien comprise par l'opinion. Quelles sont les actions que mène la MONUSCO pour protéger les populations locales?
La force de la MONUSCO a presque 1200 soldats de déployés dans la région de Rutshuru, dans plusieurs endroits qui permettent d'effectuer des opérations à grandeur du terrain là où la situation de sécurité le permet. Parmi ces activités-là, dans les derniers mois, on a fait jusqu'à 1000 patrouilles de jour et de nuit. On fait également la protection et la surveillance sur la route nationale 2 pour assurer que cette voie d'accès-là reste justement accessible à la population. Et autant au niveau de la commerce et du transport régulier que le déplacement des personnes qui fuient la région, là, des personnes déplacées là, qui cherchent un endroit plus sécuritaire pour passer le temps nécessaire avant que la sécurité soit rétablie. Actuellement, on a des troupes Kabindi. On a une position dans le coin de Rumengabo. Des forces présentes pour continuer à appuyer les FRDC. Mais
en dehors de Rutshuru, parlez-nous aussi de la situation dans la région des Beni et de l'Ituri. Qu'est-ce que la MONUSCO apporte là-bas comme appui?
Spécifiquement à la région de Beni, on est conscient qu'il y a eu plusieurs instances récentes au niveau de conflits, d'infractions au niveau de la loi humanitaire. Les troupes de la MONUSCO qui sont dans la région de Beni sont déjà déployées tout récemment sur des patrouilles de longue durée dans les régions comme Bouimanyana et certains autres endroits autour de la région de Mavivi pour justement faire une présence, rencontrer la population civile, dissuader les différents groupes armés qui sont dans la région. En Ituri, c'est actuellement, on a un déploiement relativement stable. On a, au cours des derniers mois, on a eu des opérations d'envergure en Ituri, dans le coin de Bali et de Saki, qui ont fait en sorte que on a contré certains actes du Codeco de ce secteur-là. Et ces actions-là continuent, spécifiquement en ciblant les groupes armés qui sont actifs dans la région de Ituri. Et les on est en train justement de renforcer le nombre de troupes qui sont dans le secteur.
Vous êtes directrice des opérations. Quels sont les défis auquel la force fait face actuellement par rapport au contexte du Nord Kivu, de l'Ituri, dans le cadre de la protection des civils?
Les difficultés qu'on rencontre, il y en a une peut-être que je soulèverai, c'est la coopération de la population. La sécurité du Congo, la première responsabilité, ça revient aux Congolais. Population locale et générale, tous les citoyens, mais aussi au niveau des forces de la sécurité. Notre rôle au niveau de la MONUSCO, c'est d'appuyer. Et on peut pas on peut pas réaliser cet objectif-là si on n'a pas la collaboration entière de la population. Et donc, il y a quelque chose que chaque citoyen peut faire pour encourager la sécurité au Congo. Et on compte sur chacun d'entre vous.
Colonel Maureen, merci beaucoup.
Merci à vous, Sifa.
Voilà, notre invitée est directrice des opérations de la force de la MONUSCO en RDC. Elle s'entretenait avec Sifa Maguru depuis Goma. C'est tout pour ce journal, supervisé par Martin Sebujangwe, coordination de Richard Junior Kamunga. Alain Ngoya, la mise en onde, et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.